Devenir paysan bio, pourquoi pas moi, avec Agathe Vassy et Clément Mérité.
Bon, on va pouvoir commencer. Bonjour tout le monde. Là, c'est une conférence donc, de la FRABORA, donc c'est la Fédération Régionale d'Agriculture Biologique d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur devenir paysan bio. Et donc moi-même, je suis Agathe Vassy, chargée de mission à la FRABORA. Et avec nous, on a Clément Mérité, qui est arboriculteur bio, du coup, dans le Puy-de-Dôme. Voilà. L'idée, ça va être, après quelques petits propos introductifs, de laisser la parole à Clément qui va nous présenter son projet d'installation, comment s'est passée sa propre installation, les points de vigilance, etc. Je pourrais faire quelques compléments sur les éléments incontournables d'une installation ou d'une conversion. D'ailleurs, en bio, conversion pour c'est vrai que c'est un peu du vocabulaire technique, mais conversion, c'est quand un agriculteur est déjà installé, on va dire, et qu'il change ses pratiques, change le système vers la bio, pour ceux qui ne le savent pas. Donc on en parlera également. Et puis après, bien sûr, des échanges avec la salle. Mais avant de commencer, on voulait vous, pour savoir à peu près à qui on a affaire, est-ce qu'il y a des porteurs de projets d'installation, justement, dans la salle ? Ouais, quand même, hein. Du coup, 3, 4, 5, d'accord. Est-ce qu'il y a des agriculteurs conventionnels qui pensent, qui réfléchissent à une conversion ? Une ? Bon, très bien. Parfait. Et du coup, les autres, c'est des personnes intéressées par l'agriculture biologique ou vous avez des profils particuliers Non ? Non, très bien. C'est parfait. Alors, quelques mots. La présentation incontournable du réseau des agriculteurs bio. Donc, qui sommes-nous ? Ce réseau est organisé à l'échelle nationale. Il y a plusieurs échelons. On va retrouver le niveau local avec les groupements d'agriculteurs bio. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, on en a 8, comme vous pouvez le voir ici. C'est soit des groupements départementaux, soit interdépartementaux. Il y a l'échelon régional, donc que l'on représente, Fédération régionale du coup d'agriculture biologique, et il y a l'échelon national. Donc nous sommes tous des associations de loi 1901. Ça a été créé par des producteurs. On existe depuis la FRABORA, par exemple, existe depuis une vingtaine d'années, même un peu plus de 20 ans, et c'est gouverné donc par des producteurs bio. Et voilà, quoi dire de plus ? On est à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes 50 salariés à peu près qui travaillent donc un peu partout sur le territoire, répartis entre les GAB et l'échelon régional. Nos missions principales, ça va être la promotion de l'agriculture biologique, que ce soit auprès du monde agricole, mais également auprès des consommateurs, des collectivités. C'est appuyer, favoriser le développement de la bio via la structuration de la commercialisation, des débouchés, mais aussi sur tout le volet financement, aide directe aux producteurs, etc. Et la représentation des agriculteurs bio auprès des pouvoirs publics. Juste une petite question avant de continuer. Est-ce que vous entendez bien ? Parce qu'il y a un bruit de fond. Ça va ? Ok. Vous dites s'il faut parler plus fort, moins fort. Voilà. Donc quelques mots sur la charte de notre réseau. Puisque c'est pas seulement ce réseau de producteurs ne porte pas seulement tous les critères qui sont dans le cahier des charges européen, qui est vraiment un cadre réglementaire, mais au-delà de ça, les producteurs qui adhèrent au réseau vont se rassembler autour d'un certain nombre de principes, on va dire, d'axes, de priorités. Cette charte, elle est disponible, vous verrez, en sortie de conférence. Il y en a quelques-unes ici également. Et en gros, elle s'organise autour de 3 axes. Ça, c'est vraiment un récapitulatif. Il y a le document complet que vous pourrez retrouver sur notre site. Ces axes, il y a l'axe écologique, bien sûr, qui est en partie inhérent au cahier des charges, mais qui va aussi au-delà et qui prend en compte donc l'interdiction de pesticides de synthèse, l'économie en intrants, l'adaptation des productions aux conditions du sol, du climat et de la saisonnalité, la préservation, le renouvellement, l'accroissement du patrimoine environnemental. Derrière ça, on entend donc sol, eau, biodiversité, paysage, l'économie en ressources naturelles, la limitation des déchets, etc. Mais il y a aussi un volet, économie équitable dans les territoires. Et derrière ça, on entend donc la participation, la construction de filières innovantes qui soient territorialisées, durables et équitables. Donc derrière, ça va être des notions coopération, transparence, complémentarité entre les productions à l'échelle d'un territoire, proximité. Et donc, y compris, ça passe par la construction d'outils qui soient adaptés justement à l'échelle, on va dire, de production de la bio, à la fois à la taille des fermes et aussi à la disparité, enfin l'étalement, on va dire, sur le territoire. Donc des outils de transformation, mais aussi des circuits de commercialisation, etc. Et ça passe par le dernier axe, qui est une société plus humaine et plus juste. Et pour ça, c'est qu'est-ce qu'on entend derrière ? C'est vraiment agir pour l'égalité entre les personnes et les territoires. Donc que ce soit solidarité dans le monde paysan, préservation des terres agricoles, mais aussi et surtout l'accessibilité des produits bio et de leurs coûts. Voilà. Et après, bien sûr, le volet inhérent à toutes nos actions, on va dire, de soutien des producteurs bio, c'est réorienter les politiques agricoles vers l'intérêt général. Que soit subventionner une agriculture génératrice de bénéfices pour les producteurs et sur les territoires. Là, c'est le panorama un petit peu de d'où en est l'agriculture biologique. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, vous les avez projetés ici. Mais ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que la part à l'heure actuelle, fin 2016, en termes de surface de l'agriculture biologique, ça ne représente que 5,7% de la surface agricole française. Côté en nombre de fermes, ça représente 7,3%. Donc ça reste une part qui est quand même faible. Mais d'ailleurs, on remarque, hein, quand on voit la différence des chiffres entre surface et ferme, souvent les fermes bio, donc vu qu'elles sont plus nombreuses et qu'elles représentent moins de surface, sont plus petites qu'une ferme conventionnelle, donc plus d'emplois derrière, plus nombreuses, pour une même surface. Donc c'est peu, mais c'est en nette progression. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, depuis fin 2015, on a une vague de conversion et une vague d'engagement en bio qui est sans précédent. Rien que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'année dernière, on a eu 500 nouveaux engagements. C'est plus du double de ce qu'il y avait en 2015. Et déjà en 2015, c'était supérieur à ce qu'il y avait en 2014. Donc c'est vraiment une tendance croissante. Il y a un intérêt croissant dans le milieu agricole pour l'agriculture biologique, notamment ce qui est démontré par ces conversions, qui est lié à des réflexions sur le changement de pratique, etc., mais qui est aussi imputable à un secteur conventionnel qui rencontre des difficultés, notamment dans certaines filières, donc élevage, lait, viande, céréales. Et c'est pourquoi la plupart des conversions observées en 2016 concernent ces filières-là. Donc voilà. Et après, quand même, le principal moteur, en tout cas celui qu'on... selon nous, c'est l'augmentation de la demande qui, elle, est exponentielle. Donc que ce soit des consommateurs, que ce soit des acteurs intermédiaires, des collectivités, etc. Et cette augmentation, d'ailleurs, va bien plus vite et croît bien plus vite que l'augmentation des terres agricoles qui passent en bio. Donc voilà. Côté Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est historiquement une des premières régions bio de France. On a la chance d'avoir une énorme diversité en termes de paysages agricoles, donc diversité de filières, diversité de circuits. Donc voilà, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions. Et la bio est représentée dans chacune de ces filières. Voilà, on a des filières qui sont structurées aussi. Ça, c'est une valeur ajoutée, c'est un atout assez important. Et donc, ce qui veut dire qu'on a pas mal de transformateurs, d'opérateurs, de distributeurs qui sont présents sur le territoire. Et ça, c'est juste pour petite info sur un petit zoom Rhône-Alpes. Mais en gros, le premier département de France de bio, c'est la Drôme. Donc voilà. Après, on a l'Ardèche qui est pas si loin derrière. L'Isère, le Rhône, la Loire, les Deux-Savoie et l'Ain. Donc en termes de répartition, c'est quand même assez déséquilibré. J'ai malheureusement pas les chiffres auvergnats. Désolée Clément. Voilà. Donc là... on rentre dans le vif du sujet, à savoir devenir producteur bio. Donc, je vais commencer par juste quelques éléments clés, et après c'est Clément qui aura la parole pour vraiment témoigner et vous parler en tant que producteur sur qu'est-ce qu'une installation notamment. Mais quand même, devenir producteur bio, c'est un projet à mûrir. Donc, c'est une réflexion qui peut prendre du temps et qui mérite d'ailleurs de, enfin, qui mérite qu'on y consacre du temps. C'est un projet dans lequel il y a un besoin, enfin, il est nécessaire de s'informer en amont, de se former, d'expérimenter ce qu'est l'agriculture d'une part et ce qu'est l'agriculture biologique d'autre part, et ses contraintes réglementaires notamment, et de rencontrer des agriculteurs, parce que personne ne vous parlera mieux d'un métier d'agriculteur qu'un agriculteur lui-même, et d'être accompagné dans ces démarches, que ce soit dans la phase de construction du projet, donc en amont, définition du projet, mais également dans la phase d'installation, de conversion, et puis après, derrière, tout au long des années. Et cet accompagnement, je me permets d'insister dessus en tant que structure d'accompagnement, bien sûr, mais il est essentiel pour acquérir ces compétences techniques et ces savoir-faire qui sont spécifiques au bio, déjà, pour apprendre à connaître et s'adapter au cadre réglementaire qui peut être contraignant sur certaines filières, mais qui est nécessaire, et derrière, donc, transformer ce cadre réglementaire en pratique, et surtout élaborer un projet qui soit clair, structuré et viable économiquement. Et donc ça, c'est le rôle de nos réseaux notamment, et on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc Clément, je te laisse la parole.
Bonjour à tous. Je m'appelle Clément Mérité, j'ai 35 ans, je suis producteur sur 2,5 hectares de vergers, principalement de la pomme. Un petit peu de cerise, de pêche et de poire à 10 minutes au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Sur l'ancienne ceinture vivrière de Clermont-Ferrand, avec des terrains qui ont une qualité assez exceptionnelle, c'est qu'on est sur des roches volcaniques qui sont très très propices à l'agriculture en général, mais l'arboriculture particulièrement. Donc là, moi je vais vous présenter en fait mon parcours à l'installation, un cas particulier, chaque cas est particulier. Vous m'entendez bien ? Je parle suffisamment, ouais. Donc, avant de présenter donc mon parcours, juste un petit rappel de mon bagage personnel avant de me lancer. Je me suis lancé il y a 4 ans, j'entame ma 5e année là. Je me considère encore comme un paysan bio en devenir. Je me considère pas encore totalement installé. Je suis pas sûr que dans 3-4 ans, je ferai encore la même chose. Ça prend du temps. Mon parcours perso, avant, c'est un Master 2 en aménagement du territoire et gestion de l'environnement. J'ai travaillé pour un conservatoire d'espaces naturels. Rarement, en fait, dans mon domaine de compétences initiales, ce qui petit à petit m'a amené à évoluer, à me poser des questions et à un moment me dire qu'en fait, la meilleure façon pour laquelle je pouvais m'investir à la préservation de l'environnement et aussi de choix personnels, c'était d'être agriculteur et d'être agriculteur en bio. Moi, titre perso, en fait, je suis hors cadre familial, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que je viens pas de famille d'exploitants. J'ai pas de terrain de famille, j'ai pas de matériel de famille, et peut-être plus que tout ça, j'ai pas l'habitus. Alors l'habitus, c'est un copain prof de philo qui m'a raconté ça un jour, j'aime bien cette histoire, c'est vraiment ce dans le quoi on a baigné depuis qu'on est tout petit. Et moi, j'ai baigné dans une vie où on était salarié, quoi, en fait, et ça n'a rien à voir. Voilà, c'est très important. C'est très important parce qu'on a tout un univers professionnel à se reconstruire, mais c'est pas que professionnel, c'est aussi le lien à la terre, c'est plein de choses qui font que quand on est hors cadre, hors famille agricole, voilà, on a un parcours là aussi à faire. J'ai choisi la bio pour moi, c'était avant tout cohérent par rapport à tout ce que j'avais pu faire avant dans mon travail de préservation de l'environnement. Et pourquoi l'arboriculture ? Alors l'arboriculture, ça partait avant tout d'un goût personnel pour les fruits. J'ai un potager et un verger depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours fait ça, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Mais le fruit me parlait davantage. Après, c'était aussi un choix stratégique. C'est-à-dire qu'en Auvergne, il y a pas mal de maraîchers en bio, mais il y a très peu d'arboriculteurs. Donc là, l'étude était assez rapidement faite. Hein. Tu allais consulter un peu les AMAP. Il n'y avait pas une AMAP sur deux qui avait un arboriculteur. Sur les marchés, on en trouvait très peu, etc. Après, des fois, c'est pas pour rien non plus qu'il n'y avait pas trop d'arboriculteurs. C'est que il y avait assez peu de vergers disponibles. C'est-à-dire que démarrer l'arboriculture, c'est compliqué parce qu'il y a un investissement lourd, un temps à attendre. Bon, j'ai eu la chance, moi, de trouver, en fait, un peu de foncier à louer. Donc là, je suis en location sur ces 2,5 hectares. Ce qui m'a permis, en fait, de me lancer. À côté de ça, mon choix au niveau investissement matériel, ça a été plutôt d'acheter du matériel d'occasion, bricolé, limiter l'investissement au maximum. Là, je vous pose le contexte. On reviendra sur ces points petit à petit. Ça a des limites. Ça a des limites, je le vois maintenant, mais bon, ça a été mon choix initial. Autre chose dans mon projet, en fait, moi, j'ai toujours souhaité être plus réactif. Je me suis toujours dit, dans l'agriculture, il y a tellement de risques, c'est compliqué, j'ai à avoir un petit salaire qui me permet d'avoir une garantie financière. Ça me parle. J'avais envie de faire ce choix-là. Enfin, j'ai fait ce choix-là. Je viens juste d'arrêter, d'ailleurs. Donc, au bout de 4 ans, en fait, je viens d'arrêter ma deuxième activité pour me mettre à plein temps sur les vergers parce que c'était assez complexe à gérer. Je dis pas que j'y reviendrai. Je dis pas que j'y reviendrai pas à la pluriactivité, mais mon exploitation n'était pas encore assez solide, assez costaud. J'étais pas assez tranquille sur mes itinéraires de technique, de conduite pour gérer deux boulots en même temps pour l'instant. Dans tous ces choix-là de projets, donc l'arboriculture, l'installation progressive, après la bio, et aussi souvent vient la question de la commercialisation. Donc là, moi, mon choix était de faire une commercialisation en circuit court pour essayer de valoriser au maximum ma production. On verra un peu dans le suite de la discussion, encore une fois, les limites aussi de ça, surtout en termes de temps de travail et des répercussions que ça a après sur la production. Je regarde si j'ai rien oublié de vous présenter de ce que j'avais écrit. Non, c'est bon. On va rentrer peut-être un peu plus dans le détail.
Ouais.
Dans ce qu'on avait vu comme les points de vigilance que moi j'avais identifiés sur les points qui au bout de 4 ans d'expérience ont été pour moi des points un peu centraux, et donc avant tout c'était avoir une expérience avant de se lancer, essayer de se faire un maximum d'expérience, et ça c'est en fait assez compliqué, tout dépend un petit peu de notre profil, mais bon, le classique, on pense stage. Mais déjà, pour faire des stages, il faut un cadre. Il faut un cadre pour aller faire des stages chez quelqu'un. Et selon le profil qu'on a, l'âge qu'on a, on n'est plus étudiant, etc. C'est pas si simple de ça qu'aller faire un stage. Un stage, c'est deux semaines, un mois, deux mois, parfois trois. Selon une production, en fait, ça nous donne pas un aperçu d'une année. Il faut au minimum une année, voire deux. Et ce qui serait parfait, ça serait de pouvoir être salarié agricole en fait pendant plusieurs années avant de se lancer dans la production dans laquelle on veut partir. Bon, malheureusement, en Auvergne, moi j'avais plus l'âge à repartir à faire des études, et il y avait plus en même temps les structures capables d'embaucher sur l'arboriculture. Donc moi, ce que j'ai fait, en fait, mon expérience de 4 ans, c'est pour ça que je vous dis que l'heure actuelle, on va voir ce que je ferai dans les années à venir, mais c'était justement mon expérience. Je me la suis fait sur le tas, un peu tout seul, et bon, j'en ai appris beaucoup beaucoup de choses. Donc je parle de stage, de salariat agricole. Je vais pas oublier non plus de parler un peu de nos réseaux, puisque en interne de nos réseaux, en fait, il y a dans certaines exploitations des moyens d'aller se tester. Il y a les espaces tests qui existent, ça se développe de plus en plus, et c'est vraiment des outils très intéressants. Pendant un an, deux ans, on a une mise à disposition, terrain, matériel, bâtiment, etc. Un suivi comptable, un suivi technique. Voilà, donc ça se met en place petit à petit. C'est vraiment des occasions en or, quoi, pour ceux qui peuvent avoir accès à ce type de structure. Autre point de vigilance, je le parlais par rapport au choix de commercialisation. C'est que en fait, j'ai pas appris un métier, j'en ai appris au moins 5 ou 6. Avant tout, on veut être producteur, mais j'ai parlé de le circuit court, donc on est vendeur, on est voilà. Et en même temps, dans nos petites structures, souvent, il faut aussi être un peu comptable. Il faut faire sa compta. On peut la faire, mais après, c'est toujours une histoire de coûts, hein. Il faut être aussi vendeur, mais aussi commercial. Cet aspect-là, et ce qui pour moi était un des aspects les plus durs à gérer, c'était arriver sur un marché, se vendre, trouver sa place, se battre avec les autres, même si des fois, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais dans le monde bio, on est un peu bisounours des fois. Enfin, on n'est pas peut-être assez requin, voilà. Mais quand tout d'un coup, tu arrives sur un marché, les gens vont pas te laisser la place. Ça fait certains 10 ans qu'ils attendent d'avoir, ils ont 2 mètres, ils attendent d'en avoir 4 depuis 10 ans, et toi. Et ça, faut arriver, faut un peu montrer que tu veux être là, et ça, c'était pour moi une des plus grosses épreuves. Au-delà de ça, j'ai été employeur. Donc, faut aussi se retrouver en tant qu'employeur, puisqu'on est dans des métiers, l'arboriculture, le maraîchage, très gourmand en main-d'œuvre. Moi, sur 2,5 hectares, je suis sur une toute petite exploitation. Pour vous dire, c'est à la limite de ce qu'on peut faire pour sortir un salaire. C'est un peu trop petit. Tout dépend comment on valorise, l'âge des vergers. Mais souvent, on dit qu'un arbo, pour un équivalent temps plein, c'est plutôt 3-4 hectares, mini, quoi. Après, bon, il y a plein de façons de monter son projet. Donc là, moi, sur deux, même sur 2 hectares et demi, j'ai dû me retrouver employeur. Ça se travaille. C'est pas si simple que ça, de tout d'un coup, donner les ordres, savoir un peu serrer la vis par moment. Souvent, on est dehors, il fait beau, les oiseaux chantent. Voilà, il faut savoir être manager, un peu d'équipe, voilà. Ça a été pour moi aussi un travail à faire sur moi, assez important. Au-delà de ça, il y a tout l'aspect aussi juridique et fiscal d'une exploitation qui fait que ben on est en fait des entrepreneurs, des indépendants, avec les réalités en termes de cotisation, d'après si on arrête de chômage ou enfin plutôt pas de chômage, etc. Donc il y a tout ça à avoir en ligne de mire, enfin à bien savoir. Et en dernier, parce qu'on le retrouve très souvent dans nos petites exploitations, c'est aussi transformateur. En bio, souvent, on a sur nos productions un peu plus de casques qu'en conventionnel, de fruits non commercialisables. Donc là, effectivement, une façon de valoriser, c'est la transfo. Moi, je fais beaucoup de jus de pomme, ça marche très 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 bien les jus de pomme. Mais c'est encore un boulot en plus, un investissement en plus. Donc voilà, là on a déjà un paquet de casquettes qu'on s'est donné là, et tout ça fait une chose, c'est qu'on a un temps de travail qui est très important. Voilà. Les réalités, hein, moi, je vais parler pour moi et un peu quelques collègues maraîchers que je connais, mais on va vite bosser 60 heures semaine et on ne sortira pas un SMIC. Hein. Ça c'est clair et net. À nous de, moi j'espère y arriver, mais pour l'instant ma réalité est là, quoi.
Ouais, il y a beaucoup de systèmes différents, beaucoup d'exemples différents, et en fonction des filières, c'est vrai que ça, il y a des grosses variabilités, quoi.
Voilà, tout à fait. Autre chose que je m'étais noté là tout en haut, dans toutes les différentes casquettes qu'on a, les différentes activités qu'on doit faire, il y a un truc, moi, que je trouve essentiel et qui est dur à apprendre, mais pour le coup, là, c'est l'expérience de mes 4 années qui l'a bien fait comprendre, c'est que notre outil numéro 1, notre machine numéro 1, c'est nous-mêmes. C'est notre corps et on est sur des métiers physiques. Et ça s'apprend aussi parce que, quand on vient pas nécessairement d'un métier physique, finir les journées, apprendre que le dos il trinque. Et voilà, ça c'est vrai que moi jusqu'à présent j'étais dans des métiers plutôt d'action, d'activité aussi, mais il y avait un peu plus de temps mort, il y avait un peu plus de moins de courses, moins d'heures de travail, et voilà, notre machine c'est nous-mêmes. Ça c'est un truc qu'il faut pas oublier, surtout pas oublier. Je sais pas si tu vois des choses que j'aurais pu oublier.
Non, plutôt j'ai quelques questions. Du coup, quand on avait discuté en amont, t'as un petit peu évoqué le fait que tu louais des terres, mais face à un accès au foncier difficile, comment tu t'en es sorti et quel est ton projet?
Effectivement, oui. Donc là, en fait, moi, je suis encore dans une phase de construction de mon projet. J'ai 2,5 hectares de verger en location. En location, certains avec des fermages, d'autres non, parce que les terrains sont trop près des lotissements. Et donc là, plus personne veut signer de fermage. Il faut savoir que signer des fermages devient de plus en plus compliqué, puisque c'est vrai que ça nous protège beaucoup, nous, agriculteurs, mais c'est très contraignant aussi à certains moments pour les propriétaires. Et donc, du coup, il y a une grosse réticence de plus en plus souvent à signer des fermages. Moi, je suis dans un contexte très particulier. C'est que, comme souvent, les ceintures vivrières des grandes villes, on les retrouve un peu partout, sont devenus en fait les quartiers assez recherchés de ces grandes villes. Et même à Clermont-Ferrand, qui est pas une grosse bourgade, mais on a une pression immobilière, et particulièrement sur ces zones-là, très importante. Et donc là, tout d'un coup, ça a au niveau agricole des répercussions assez terribles. C'est-à-dire que plus personne veut signer de location de terrain parce qu'ils veulent pas se retrouver bloqués avec un fermier sur leur terre, et puis le prix de l'immobilier augmente en flèche. Là je vous parle de terrain, mais il y a une autre réalité très importante à bien réfléchir quand on a des projets, c'est les bâtiments. c'est que là, moi, la moindre grange a une valeur immobilière qui fait qu'ils vont pas me la louer pour 100 euros le mois. Et moi, au-delà de ça, ça serait beaucoup trop. Enfin, voilà. Il y a un contexte foncier immobilier où je suis qui me pose beaucoup de questions. J'aimerais, moi, je rêve un petit peu d'avoir des terres et de pouvoir avoir une maison à proximité. Je pense que c'est le rêve un petit peu d'un bon nombre de personnes qui s'installent. Et d'ailleurs, moi, je trouve que l'intitulé de l'intervention d'aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est devenir paysan bio, pas producteur bio, paysan. Pour moi, autour de la notion de paysan, il y a une ferme, des terres à proximité, une cohérence avec un peu d'animal, peut-être avec le végétal. Moi, j'aurais aimé mettre des moutons, des poules dans mes vergers, des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça qui me parle et c'est pour ça que je serais prêt à sacrifier beaucoup de mes vacances. En 4 ans, j'en ai pris une semaine. Je serais prêt à sacrifier un pouvoir d'achat. Voilà. Après, pour en parler avec certains anciens, ils disent attention, faut pas avoir le syndrome fleur bleue, on me dit souvent, ou un truc comme ça, on appelle ça comme on veut, mais c'est d'aller chercher la maison à 900 mètres d'altitude parce qu'effectivement, il y a les terres autour et tout, mais après, complètement déconnecté des réseaux de commercialisation, très difficile d'accès, etc., etc. Voilà. Il y a des moments, certains anciens me disent, en fait, choisis avant tout la terre, quoi. Choisis la terre, la bonne terre, etc. Après, c'est toujours pareil, faut y avoir accès, et c'est très compliqué. La recherche foncière est très très compliquée. Il y a surtout, alors en Auvergne, l'arboriculture c'est une production atypique, hein. Il y a un historique assez ancien. Dans les années 50-60, le Puy-de-Dôme était un des premiers producteurs de France, mais avec un vieux système sur lequel on revient aujourd'hui, on pourrait parler d'agroforesterie, mais c'était les vaches en pré-verger, c'est-à-dire des grands arbres et dans les champs à vaches. Ce système s'est cassé la gueule quand l'arboriculture s'est intensifiée avec les vergers qu'on voit maintenant palissés. Et là, l'Auvergne a un peu raté le coche. Il y avait des grandes politiques de décision de régionales. À cette époque-là, nous, en Auvergne, on était subventionnés pour arracher les vergers. En Rhône-Alpes, les vergers ont plutôt été subventionnés. C'est plutôt en région Rhône-Alpes qu'on a vu apparaître les vergers à partir de cette modernisation-là. Donc en Auvergne, il y a quand même un petit historique qui nous reste, mais pas tant. Et donc du coup, il y a très peu d'exploitations à reprendre, parce qu'une façon de s'installer, ça peut être le plus simple, c'est de reprendre quelque chose d'existant. Mais en Auvergne, il y avait très très peu ça. Donc c'est là que je vais en venir un petit peu sur l'arboriculture en elle-même, moi mon projet perso, qui est assez spécifique. C'est-à-dire que contrairement au maraîchage, on est sur un temps long. En arboriculture, on a 4 à 5 années avant de rentrer dans des vraies productions assez importantes. Quand on va voir un banquier avec un projet comme ça, ça coince. Voilà. Donc là, moi, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un petit peu de verger pour me lancer. Et après, l'idée, c'est pouvoir replanter progressivement. À l'heure actuelle, j'en suis à me demander, est-ce que je plante sur l'endroit où je suis avec les très bonnes terres, mais j'aurai la maison à 25 km, c'est le cas actuellement, 25 minutes de route pour y aller, pour revenir, t'oublies un truc, il se met à pleuvoir, tu manges dans ta bagnole, etc. Ou chercher des terres plus loin, plus excentrées, qui seront assurément de moins bonne qualité, je serai plus sur les terrains volcaniques, mais par contre avoir un outil beaucoup plus proche, peut-être avec un parcellaire plus groupé. Et voilà, je bataille fortement en moi entre ces deux options, parce que je sais que pour la production, c'est bien où je suis, mais qu'en termes de projet que j'avais initial, c'est pas ce que j'ai envie. Alors après, faut voir aussi l'ensemble, et c'est très complexe, mais c'est que je peux pas construire de bâtiment agricole où je suis. En proximité urbaine, il y a eu énormément d'abus du fait de gens qui se lançaient dans l'agricole pour avoir des terrains agricoles constructibles et après arrêter leur activité, etc. Enfin, les collectivités sont vraiment sur le frein là, et donc c'est très compliqué de pouvoir ne serait-ce que construire un bâtiment agricole. Donc là déjà, pour moi, c'est une limite assez importante, quoi. Au-delà de ça, si je pars sur un peu plus loin, je trouve un vrai bloc d'un tenant, ça a aussi des réalités en termes de techniques d'arboriculture en bio qui sont plus intéressantes. C'est-à-dire que un petit point technique là, le Carpocaps, le ver de la pomme, un papillon nocturne. Il existe de super moyens qui ont été inventés là de lutter contre, ce qui est de la confusion avec des phéromones. Donc on perturbe les papillons pour pas qu'ils se retrouvent, la femelle retrouve le mâle et que du coup la ponte ait lieu. Mais ça, ça va devenir possible à faire que sur des terrains de 1 voire 2 hectares minimum. Actuellement, moi j'ai 8 parcelles qui font 2-3 000 mètres carrés, 1,5 hectare. Donc voilà, il y a du bon, du positif et du négatif sur les deux projets. Vas-y, je te...
Non, t'as...
Non, je fais un petit point sur ce que j'avais noté. Oui, donc sur le projet Arbo, après, il y avait une question aussi de temps long et d'investissement aussi. L'arboriculture, c'est un investissement assez lourd. Il faut acheter les arbres, le palissage. Derrière, on a du matos. Bon, pas énormément de gros matos, mais pas mal en bio. Il faut savoir qu'on doit avoir des matos très spécifiques en arbo. Le cas classique, là où un arboriculteur conventionnel passe du désherbant au pied des arbres. Nous, on est obligé de travailler le sol si on veut éviter la concurrence de l'herbe. Et tous les outils de travail du sol, comme ça, c'est des outils déportés. Ça va être du matériel spécifique, donc investissement, encore une fois, assez important, quoi.
C'est vrai qu'il y a des filières où l'investissement matériel, on va dire... peut être moindre. Le maraîchage, certes, il y a un investissement en termes de... Enfin, il y a pas mal d'outils à avoir, mais déjà, il y a des structures sur le territoire qui permettent d'investir collectivement, comme les CUMA, donc c'est les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Enfin, voilà, il y a des systèmes qui sont un petit peu moins lourds en termes d'investissement au départ. L'élevage, par exemple, lui, est très lourd. L'élevage laitier, c'est quasiment le système le plus lourd, je pense. Enfin...
C'est quasiment le système le plus lourd, avec par contre des réalités selon les territoires qui peuvent être plus simples. C'est parce qu'au final, nous en Auvergne, nous, on a dans la plaine des exploitations céréalières. Bon, là, pour accéder aux fonciers céréaliers, c'est très très compliqué. Mais par contre, il y a pléthore d'exploitations laitières à reprendre. Et donc, en fait, on peut trouver déjà les opportunités toutes prêtes, parce qu'il faut pouvoir se lancer, c'est ça aussi. Moi, je conseillerais, voilà, dans le projet Arbo, en fait, une bonne solution est de reprendre de l'arboriculture existante. Alors, ça peut être déjà en conventionnel, ça peut être de la golden, soit il y a des possibilités de surgreffer les arbres, de changer les variétés. Mais en fait, vous avez déjà une activité qui tourne, vous avez déjà quelque chose, et voilà, partir de zéro en arboriculture, c'est très complexe. Sinon, il faut avoir un boulot à côté et planter, entretenir pendant ce temps-là, quoi. Ça, la double activité, avoir tout le temps le cerveau coupé en deux, etc., et à regarder la météo, savoir quand tu vas... Très dur. Très, très dur. Enfin, moi, mon expérience, ça a été assez, assez complexe, quoi. Bon, c'était mes débuts, donc à voir ce que je ferai dans l'avenir, quoi.
Mais merci Clément. Du coup, là, tu as déjà brossé pas mal de points de vigilance. Tu as parlé de l'expérience préalable, longue, qui est nécessaire. Que c'est plusieurs métiers en un, donc c'est un métier complexe, diversifié. Importance de la phase de réflexion et définition du projet. Choix de la filière par rapport au contexte local, par rapport à la structuration des filières sur le territoire. T'as parlé aussi, donc, la différence, c'est pas vraiment distinction le terme, mais entre choix professionnel et choix de vie. Enfin, il y a des réalités agronomiques aussi qu'il faut prendre en compte, des réalités financières, l'installation progressive, difficulté d'accès au foncier. Il y a des outils qui existent pour ça, on va revenir dessus. Il y a des acteurs qui accompagnent sur ces sujets-là, sur l'accès au foncier notamment. Voilà, et il y a un point peut-être que tu as un petit peu moins abordé, c'est l'insertion dans le territoire. Et c'est souvent quand même un facteur clé de réussite. Donc tu l'as abordé quand tu disais reprendre une ferme qui existe déjà. Du coup, elle est déjà elle est déjà ancrée dans son territoire. Et je pense que c'est un facteur important. Ouais,
Alors effectivement, moi l'insertion dans le territoire est assez particulier puisque c'est un territoire, donc comme je dis, périurbain, qui a perdu beaucoup de sa vocation agricole. Malgré tout, une des premières choses que j'ai fait, c'est aller me présenter à tous mes voisins, qu'ils soient conventionnels ou bio. Moi, j'avoue que devenir producteur en bio m'a rendu beaucoup plus, comment dire, enfin beaucoup moins intransigeant, je vais le dire dans ce sens-là, avec les producteurs en conventionnel, mes voisins, puisque je partageais leur métier et les difficultés des métiers. Et tout d'un coup, tu comprends pourquoi on en vit, enfin certains sont venus à agrandir les exploits. Enfin, on comprend d'autres choses quand on est dans le métier après. Ça, bon, après c'est des choix, mais voilà. Je me suis surtout pas placé en le bio qui venait lutter contre les conventionnels, parce que le jour où tu renverses ton tracteur, ça m'est déjà arrivé, c'est ton plus proche voisin que tu vas voir pour aider à le remettre debout, etc. Et voilà. Moi, j'ai fait très attention à pas arriver un peu comme un bourrin là, et plein de revendications et tout. Voilà, et chercher vraiment une intégration, c'était important pour moi. Après, parler avec toutes les personnes qui sont là. Alors, c'est assez dur des fois parce que on se disperse beaucoup quand on est sur un territoire et que on commence à parler avec un ancien, etc. Voilà. Et des fois, nous, on boue là, on a envie de monter sur le tracteur, mais il faut prendre ce temps-là parce que mine de rien, c'est souvent ces discussions-là qui t'emmènent à connaître quelqu'un, qui t'emmènent et qui finissent par trouver une grange que tu cherches depuis longtemps. Alors c'est vrai que sur un planning des fois super serré que je me faisais en début de semaine de trucs que je voulais faire comme ci comme ça là, et ben je finissais la semaine, j'étais un peu frustré parce que je n'avais pas fait la moitié, mais en même temps ça m'a apporté beaucoup. Faut savoir prendre ce temps là voilà. Alors des fois après on déborde un petit peu de nos temps de travail, mais de ce qu'on s'était fixé, mais voilà, c'est important vraiment discuter. Après, malheureusement, le côté Cuma, moi, je suis sur un territoire trop périurbain et où je retrouve pas ça. Par contre, j'ai des collègues arboriculteurs aussi qui qui font des jus transformateurs, double actif, façonniers, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils font des jus pour les particuliers et des professionnels, qui vont échanger leur pulpe, enfin qui vont donner leur pulpe à la Cuma pour faire du compost, qui est mélangé avec du compost de vache, etc., du fumier de vache, et derrière ils récupèrent du compost. Ça c'est top quoi. Il y a plein de choses comme ça avec des valorisations des déchets de transformation qui sont vraiment très intéressants. Après, à titre perso, on fait partie d'un petit réseau dans la FRAB qui est en Auvergne. On est plusieurs et là, moi prochainement, j'achète un petit épandeur d'engrais avec un collègue. C'est une mini Cuma qu'on fait en local, un broyeur spécifique que j'achète avec un de mes voisins. C'est pas la Cuma sous le sens associatif du terme quoi, mais c'est l'entraide est très importante sur l'investissement puisqu'on a du matos dont on se sert pas tout le temps quoi.
Super.
Il y avait un point sur lequel je voulais revenir. Oui, c'était ce que tu disais sur la préparation en amont d'un projet. J'ai moi dans mon parcours personnel occupé le poste, mon emploi à mi-temps était un poste de technicien agricole en arbo. Donc en fait, je me suis aussi pas mal occupé de personnes qui s'installaient en même temps que moi au final. Et effectivement, souvent, on venait me demander des références. Combien c'est le temps de taille à l'hectare? Combien c'est l'investissement à l'hectare? Combien c'est ceci? Tout ça pour monter des business plans, le plan de développement économique, comme dirait la Chambre d'agriculture, dans le cadre de d'un projet, si on veut s'installer en DJA, dotation jeune agriculteur. Et c'est vrai qu'on a besoin de chiffres pour ça, quoi. Après, selon les modèles, selon l'exploitation qu'on a, le verger qu'on a, c'est tellement variable le temps de travail que j'avais toujours un petit peu de mal à donner des chiffres. On en trouve sur Internet, vous en trouverez des références. La Chambre du Rhône, je crois, fait des super documents, mais pour des super exploits, super carrés, avec l'irrigation, avec les filets paragrêles, avec voilà. Moi, c'était pas du tout mon modèle, quoi. J'arrivais pas à me retrouver là-dedans. Donc mon choix perso dans l'anticipation, le projet, c'était, je voulais surtout me confronter au manuel, quoi, au travail. J'avoue que le côté financier, au départ, m'importait un peu, assez peu. Bon, je me disais, il faut quand même de quoi payer un minimum, mais voilà. C'était vraiment me confronter pendant plusieurs années à être tout seul, à prendre mes choix, à faire le boulot physique, à tailler des 5-6 heures de rang l'hiver quand il fait pas très chaud, etc., etc. Et là, j'arrive à la fin de ce cycle-là, Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il est quand même essentiel de revenir aux chiffres. Bon, déjà, parce qu'au bout d'un moment, ça sert à rien de s'épuiser si c'est pour gagner des clopinettes. Mais bon, après, j'ai des collègues qui disent, moi, très bien, je vis avec 500 euros par mois. Soit, 500 euros par mois, cotisant solidaire, je sais pas si ça vous parle, cotisant solidaire, c'est un statut à la MSA. C'est-à-dire qu'on a un statut, on a un numéro de sécurité sociale, mais on cotise pas à la retraite. Moi, j'ai plein de copains de ma génération qui disent ça. La retraite, on s'en fout, on n'en aura pas. Et de toute manière, le minimum vieillesse, c'est pas loin d'être la même chose qu'une retraite agricole de base. Moi, je bataille encore un peu avec ça. Je vous avoue que j'ai du mal à me dire, bon, ok, basta. À 35 ans, en même temps, avec les études longues, les petits boulots et machin, la retraite, c'est un peu hypothéqué, mais passons. C'est vrai que il faut un moment revenir aux chiffres, ça te permet quand même d'avoir des jalons, savoir où t'en es pour évoluer, etc. Mais pour moi, l'essentiel quand même, est, quand on veut partir dans ces métiers-là, c'est l'expérience de terrain, quoi. Vraiment de se faire les cycles en complet, quoi. Après, faire ça, c'est assez compliqué à trouver, voilà. Le mieux, je vous souhaite de réussir à vous faire embaucher d'un salarié agricole dans le domaine que vous allez faire, quoi, mais que vous souhaitez faire. Mais et voilà, il faut vraiment ce temps long, quoi.
Il y a des outils qui existent et ce que je vous propose, c'est de faire peut-être juste de balayer rapidement quelques compléments d'infos. Et après, on laisse libre cours aux questions et comme ça, ça permettra de recibler sur des éléments qu'a présenté Clément, ton parcours, des questions, etc. En tout cas, merci pour ta présentation.
Je reviendrai après si j'ai oublié des trucs.
Ça va pas être long, moi, j'en ai pour 5-10 minutes. Et puis Clément pourra compléter au fil de l'eau. En gros, ça va être des compléments d'information plutôt sur comment s'informer en amont, comment se former en amont aussi, comment rencontrer des producteurs bio sur son territoire ou ailleurs d'ailleurs, et après comment se faire accompagner. Donc c'est un peu les grandes étapes clés. Et puis après, on pourra en creuser des plus spécifiquement en fonction de vos questions. Du coup, s'informer en amont, bon, il y a une multitude de ressources qui existent. Il y a des sites qui sont assez incontournables, que ce soit les sites du réseau bio, le site de l'échelle régionale, par exemple, la FRAB, le site de l'échelle nationale, où il y a tout un portail sur l'installation et la conversion, avec des témoignages d'agriculteurs, des outils, que ce soit pédagogiques, des outils, des références techniques, etc. Il y a un site de la Chambre d'agriculture aussi, qui est assez bien fait, devenir agriculteur, à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a des guides. Vous en trouverez notamment un sur notre site internet, donc convertir son exploitation à l'agriculture biologique, qui reprend l'ensemble de l'info indispensable, mais vraiment, donc réglementaire, les démarches administratives, les questions, etc. Et après, pour de l'information plus technique, pareil, on a plein de supports dans le réseau et ailleurs. Nous, on a une revue notamment qui s'appelle La Luciole. Et donc avec des témoignages d'agriculteurs, c'est une revue qui est écrite par nos techniciens. Et il y a une page par filière, voilà. Ça peut être un moyen de se baigner un peu plus dedans. Il y a le site de l'ITAB aussi. L'ITAB, c'est l'Institut Technique d'Agriculture Biologique, lui qui recense énormément de références sur le sujet également. Mais comme l'a dit Clément aussi en partie, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à la rencontre des producteurs, donc de participer à des événements. Il faut savoir que nos réseaux, comme les autres réseaux, organisent des événements sur le territoire tout au long de l'année, que ce soit des journées spécialement dédiées à l'installation, agricole bio d'ailleurs, qui sont en partenariat avec d'autres réseaux comme les CIVAM, les ADAR, etc., d'autres réseaux paysans. Ça peut aussi être des journées filières. Là, l'objectif des journées filières qu'on organise, c'est plutôt de permettre à des porteurs de projets ou à des agriculteurs déjà installés de rencontrer des acteurs de l'aval, de rencontrer des coopératives, des magasins spécialisés, enfin voilà, tous les potentiels opérateurs qui pourront... Des cantines aussi d'ailleurs, hein. C'est vraiment tout circuit confondu. Et enfin, les journées portes ouvertes. Ça, c'est un des outils phares. C'est organisé par les groupements locaux d'agriculteurs biologiques. Ça se passe dans les champs et dans les fermes. Et voilà, c'est un moyen de voir en direct. Côté formation, il y a les formations initiales ou continues. Donc la plus répandue, on va dire, c'est le BPREA, donc brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Pardon. Donc une étape importante quand même. Après, il existe des formations par la suite qu'on peut faire en tant que porteur de projet ou en tant qu'agriculteur déjà installé. Donc voilà, qui sont organisées par notamment nos groupements. en tout, là, rien que sur la saison 2016-2017, parce que ça se base sur, ça se cale sur l'année scolaire. Nous, dans le réseau, il y a 120 formations qui ont été organisées, qui vont du, de la formation très introductive, donc initiation à l'agriculture biologique avec les principes de base, etc., à la formation très technique sur une problématique spécifique, en passant par volet économique, etc. Vous avez des programmes de formation qui sont édités chaque année. Donc là, j'en ai amené quelques-uns, mais c'est disponible sur notre site et qui reprend l'ensemble des formations, qui l'organise, les contacts, voilà. Pour rencontrer des personnes, bon bah il y a déjà la possibilité de rencontrer des conseillers, que ce soit de nos groupements d'agriculteurs biologiques, comme l'était Clément sur l'Arbo ces dernières années, que ce soit les conseillers des points accueil installation. Il en existe. Il faut savoir que dans chaque département, il y a des points accueil installation pour les porteurs de projets qui souhaitent s'installer justement, et pour vous accompagner dans le montage de votre projet, notamment toute l'analyse économique en amont, etc. Et bien sûr, les conseillers des chambres d'agriculture aussi, avec lesquels on travaille sur le terrain. Et le plus important, rencontrer les paysans bio. Pour ça, vous pouvez vous rendre dans les journées portes ouvertes. Vous pouvez prendre contact aussi avec, en prenant contact, par exemple, avec le groupement d'agriculture biologique de votre département. Il va lui-même vous mettre en contact avec des producteurs bio en fonction de vos questions, en fonction de vos problématiques, qui ont testé, par exemple, un volet particulier qui vous intéresse ou sur lequel vous vous questionnez. Donc c'est important, faut pas hésiter d'aller devant. Et pour ça, nous, on a un outil particulier, on a un réseau de fermes de démonstration bio, notamment. En gros, c'est des fermes qui, un peu partout sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpin, bon, là, il y a que la partie Rhône-Alpine, mais on a une centaine de fermes qui ont choisi d'ouvrir leurs portes aux agriculteurs, aux techniciens, aux porteurs de projets, aux jeunes en formation, pour parler de leur métier, pour parler de leurs problématiques, pour montrer leur champ, etc. Et voilà, donc c'est... Il y a un réseau d'entraide assez important et ces listes de fermes sont disponibles auprès de vos GAB et sur nos sites internet. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est un peu. Il y a différents schémas en fonction s'il s'agit d'une conversion ou s'il s'agit d'une installation. À chaque fois, on va retrouver la phase de réflexion et les dispositifs d'accompagnement qui existent durant cette phase, la phase d'engagement et la phase un peu plus administrative dans laquelle. Qui comprend la demande d'aide. Ça, bon, si vous avez des questions spécifiques, on pourra y revenir. Mais je ne vais pas insister dessus. Sur le foncier, tu l'as déjà bien détaillé, Clément. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est juste que, en gros, il y a des contacts incontournables, des acteurs qui peuvent vous aider. En contact incontournable, on va retrouver la SAFER sur votre territoire. C'est elle qui va aussi intervenir lors de l'achat ou de la reprise de terres agricoles. Il y a les conseillers des points accueil installation qui disposent d'un répertoire départ installation. Cet outil, le répertoire départ installation, référence l'ensemble des fermes où l'agriculteur s'est inscrit comme futur cédant. Donc ça va être des fermes à céder, donc potentiellement à reprendre. Et voilà, il y a un répertoire du foncier alternatif qui est tenu par les réseaux alternatifs Impact et Célavar. Célavar, c'est côté Auvergne, Impact, c'est côté Rhône-Alpes. Il y a bien sûr nos propres réseaux d'agriculteurs qui font une veille sur le foncier qui se libère, tout ça. Et notamment en cas de reprise. Et après, il y a un organisme qui est très clé, je pense, qui est Terre de Liens et qui fait de l'acquisition collective de foncier via un fonds d'épargne solidaire. Donc ça permet l'installation, ça permet d'aider à l'installation certains jeunes, ou pas forcément jeunes d'ailleurs, hein, et avec derrière un engagement environnemental par contre. Donc, ils sont présents sur le salon, donc n'hésitez pas à aller les voir. Il y a des étapes clés indispensables, comme le choix de l'organisme certificateur. Il y en a plusieurs, donc il faut faire des devis, il faut aller à la rencontre de ces derniers. Il y a des étapes, la notification auprès de l'agence bio, l'envoi, des étapes qui sont assez détaillées et qui sont... qu'on ne peut pas éviter. Il faut faire très attention à bien les respecter dans le bon ordre, sinon après, ça peut décaler votre date de conversion, d'installation, et du coup, potentiellement impacter sur votre commercialisation et sur vos demandes d'aide. Mais ça, c'est pareil, on a tous des outils très bien détaillés sur le sujet. Et ensuite, bien sûr, il y a des aides disponibles, que ce soit en cas d'installation, comme la dotation jeunes agriculteurs, en cas de conversion, et après, pour tous les agriculteurs bio. Donc aide au maintien, crédit d'impôt, aide à la certification, et voilà, pas mal d'autres aides. C'est pareil, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ouais, tu veux faire un petit point ?
Ouais, je reviens juste là sur ma relecture. Pour dire que donc devenir paysan bio, c'est avant tout devenir paysan. Donc là, c'est pour un petit point de bilan, on va dire, quoi. Et donc et avant tout devenir aussi entrepreneur indépendant, quoi. Donc on va retrouver les mêmes questions en fait d'investissement que n'importe quel entrepreneur, mais avec les spécificités de ce que serait notre fonds de commerce, c'est la terre, très difficile d'accès. Voilà. Et en bio, on va souvent se rajouter des contraintes techniques après en termes de production. Voilà. Donc, sinon, c'est un parcours comme un autre, mais voilà, avec des contraintes techniques, des aléas climatiques. Voilà. Donc, tout ça fait qu'on est quand même sur des activités assez risquées et souvent assez peu rémunératrices. Moi, je dis souvent, il n'y a pas d'Eldorado en agriculture. Et on va venir me voir un jour, j'ai un projet safran, c'est... Il y a plein de petites niches qu'on peut trouver. On peut trouver des petites niches et certains s'en sortent très très bien et tant mieux pour eux. J'ai un copain qui s'est installé en vin naturel, vigneron en vin naturel. Il gagne très bien sa vie, ça marche très bien. Voilà, tant mieux. Mais ça reste plutôt des exceptions, moi, je trouve. Juste un rappel, je veux pas démobiliser les trucs ni démoraliser.
Il y a des modèles qui marchent quand même. Après,
qui marchent très bien.
Ça demande du travail, ça demande de l'anticipation et de la gestion.
Voilà. Dans la phase de construction, moi, je voulais revenir sur ce que tu disais, juste pour dire que, voilà, allez voir un maximum d'exploitations, rencontrer un maximum de gens par rapport à vos projets. Le plus on en voit, le mieux on s'imprègne, on voit les différences. Et au fur et à mesure, notre jugement s'affine, on arrive à voir les différences de chaque exploitation. Pour ça, le document que tu présentais tout à l'heure, des fermes de démonstration est très intéressant. Parce que des fois, on voit des projets qui nous font rêver. Mais il faut voir un petit peu tout le global, c'est-à-dire qui a fait ce projet, quand est-ce qu'il l'a fait. Parce qu'il y a des projets, ils nous font rêver. Mais les gens sont arrivés avec 400 000 euros parce qu'ils arrivaient à 50, 60 ans après une première carrière. Et avec, voilà. Donc il faut savoir bien comparer aussi ce qu'on voit, quoi, par rapport à ce que nous, on est en capacité, on veut et on est en capacité de mettre en œuvre, quoi. Voilà, parce que des fois, on voit des choses qui sont magnifiques. Mais en fait, voilà, il y a derrière, il faut savoir comment ça a été construit. Et puis, l'important, c'est d'aller voir ses collègues aussi. Moi, je sais, en fait, je me serais jamais lancé si en Auvergne, il n'y avait pas eu en même temps une émulation. On était 4 ou 5 à s'installer en même temps parce que les AMAP étaient là, montaient en puissance et qu'il n'y avait pas de fruits. Il y avait une demande, etc. Les terrains, des vergers se cédaient un petit peu. Et on s'est lancé en même temps en échangeant à fond. On n'a jamais vu qu'on était concurrents parce qu'au final, il y a de la place pour tout le monde encore. Hein. En tout cas, nous, en Auvergne, il y a une demande qui est bien supérieure à l'offre. Et donc, du coup, voilà, échanger. Quand on est dans des points de galère, c'est vrai que vous vous rendez compte qu'on n'est pas le seul dans ces petits points un peu techniques, compliqués. C'est rassurant. Et pour ça, les groupements de producteurs, c'est vraiment, pour moi, ça a été une clé. Vraiment une clé. Alors, ça demande du temps. Il y a des réunions... Il y a des choses comme ça, faut s'investir si on veut que ces choses-là vivent. Mais sans ça, moi, je sais que je me serais pas lancé. Voilà, donc vraiment à rappeler ça. Et puis dans les phases où on veut démarrer et tout, je mettrai quand même un petit bémol à un moment, à faire attention aux installations bricolage. Quand je dis ça, c'est ce que j'ai fait moi, mais c'est que quand au final t'achètes le tracteur 1000 euros, mais que tu passes plus de temps sous le tracteur que sur le tracteur, le boulot il est pas fait. Et au final, si t'en avais acheté un 8000 euros ou 10000 euros, bah t'aurais mieux bossé. Au final, en un an, tu l'aurais payé ton tracteur. Alors avec cette logique-là, on peut aller très loin. Il faut savoir mettre le curseur parce qu'après, c'est est-ce qu'il faut les filer, est-ce qu'il faut une chambre froide, on va toujours plus loin dans cette logique de vouloir un peu optimiser notre façon de produire. Mais voilà, partir trop bricolage, il y a un moment, attention à ne pas s'y épuiser. Voilà.
Merci. Est-ce que vous avez des questions, du coup, dans la salle ? Ah, pardon.
Merci, bonjour Clément. Plusieurs questions. La première, c'était de savoir à peu près combien t'a coûté le matériel agricole au niveau mécanique. La deuxième, c'est ton exploitation, tu l'estimes plutôt intensive ou extensive dans le sens où j'aimerais savoir le nombre d'arbres à l'hectare. Et puis voilà, je vais commencer par là et les autres me viendront après.
Donc une question machine et une question verger. Donc sur mon investissement que j'ai fait de façon progressive, mais je pense que si je partais avec 20 000 euros en arbo en occasion, hein, je parle pas de matériel neuf, je pense que j'étais pas mal. Mon tracteur m'a coûté, là celui que j'ai acheté, 10 000 euros. Je me suis acheté un tracteur un peu puissant parce que je veux pouvoir travailler le sol, etc. On peut trouver un peu moins cher. Après, en arbo, en fait, il n'y a pas tant de matériel que ça. Ils peuvent être un peu spécifiques, mais il faut avoir un outil qui travaille le sol en déporté, souvent. Un atomiseur, cette espèce de grosse cuve avec une énorme hélice derrière qui fait un nuage qui monte à 4 mètres et qui fait peur à tous les promeneurs quand tu es en train de le passer dans tes vergers, même si on est en bio. Mais voilà, donc ça va coûter 5-6 000 euros, je vous parle en occasion. Je pense que ouais, un bon 20 000 euros, je pouvais m'équiper bien. Un petit cultivateur, voilà. Après, les arbres. Les arbres, tu me demandais l'intensivité de mes parcelles. Alors, il faut savoir qu'en verger, on va parler de différentes formes de verger. Basse tige, moyenne tige, haute tige. Basse tige, c'est ce que vous voyez, c'est les vergers palissés, en ligne, comme ça. Là, les porte-greffes sont faibles. Donc, ça veut dire qu'ils vont produire en 3 ans, mise à fruit rapide, longévité 25 ans. Par contre, on est obligé d'avoir un palissage pour les tenir. Les gros fils, les gros poteaux, sinon les arbres, ils se couchent. Au bout de la troisième année, première récolte, boum, ils sont tous couchés par terre. Donc ça, c'est entre 1000 et 2000 arbres hectares. Ça, c'est relativement intensif. Ensuite, on peut faire des formes en gobelet. Donc le tronc s'arrête là, part en plusieurs branches. On va être à 500 arbres hectares. Et sinon, on va faire du haute tige. Souvent, les branches charpentières commencent plus haut que moi. Ça, c'est ce qu'on appelle les pré-vergers. Souvent, il y avait les vaches en dessous. Et il y aura 100 arbres hectares. Ces vergers-là, s'ils sont tous conduits de manière, on va dire, optimum, vont produire la même quantité à l'hectare. Sur 100 arbres, on aura des arbres qui feront 200 kilos par arbre, là où où il y en a 1000, ils font 20 kilos par arbre. Vous voyez, on retombe sur la même chose. Par contre, attention, la réalité de notre travail, c'est que le point névralgique, c'est la main d'œuvre, la nôtre ou celle qu'on embauche, hein. Et donc, du coup, en fait, les grands arbres, que souvent, quand j'avais des porteurs de projets qui venaient me voir, ils me disaient « projet en permaculture, avec des grands arbres et tout », le temps de monter à l'échelle, t'as déjà perdu, voilà, tu doubles déjà le prix de ta pomme, quoi. Donc voilà, en fait, on est un petit peu contraint maintenant à être sur des formes basses. Donc soit le verger palissé plat, soit le gobelet. Le verger palissé très plat est très pratique parce qu'on a une rapidité d'exécution, de taille, de récolte. On a à peine à monter, des fois on a des toutes petites échelles, voilà, et on est très efficace et très rapide dans le travail. Par contre, ça nous oblige l'investissement du palissage et ça, c'est assez important et puis assez dur à mettre en œuvre. Le verger gobelet, il y en a qui reviennent de plus en plus. Alors, le problème, c'est qu'on a des arbres qui sont plus épais. Donc, après, à chaque fois qu'on doit aller ramasser dedans, on risque de casser une branche. On prend plus de temps. Par contre, l'arbre a une longévité plus grande. Donc, les basses tiges, on dit 25 ans, 20-25. Les moyennes tiges, on va dire plutôt autour d'une 30-35 ans. Et les vieux arbres, les plein vent, on peut en avoir certains qui durent 60-80 ans. Voilà. Après, on est un petit peu quand même contraint quand on va avoir une certaine efficacité d'être dans le verger basse tige. Le gobelet, hein, donc j'en étais là, il y a pas mal de monde qui y revient pour d'autres raisons. C'est que donc il y a un investissement moindre parce qu'on n'a pas de palissage. Il faut savoir que le palissage double pas le prix de l'investissement à l'hectare, mais rajoute un bon gros tiers, quoi. Et un bon 30% en plus. Et autre chose, c'est que les porte-greffes faibles, donc ce qu'on appelle souvent le M9, Pajam 2, ça c'est les porte-greffes, ont des racines très appétantes pour les rats aux pieds. Et dans pas mal de secteurs, dont c'est le cas moi où je suis, en zone de moyenne montagne, et avec de l'élevage pas loin, le rat aux pieds est là. Et moi, c'est arrivé à un de mes collègues, son verger arrivé en quatrième année, donc en pleine production, enfin ça, voilà. Une période de pic de pullulation, les rats aux pieds, ça fait un peu comme les lemmings, c'est-à-dire pendant 5-6 ans, il n'y a pas trop de pression, et tout d'un coup, hop, la population se multiplie par 10. Et sur ces épisodes-là, eh ben, il a perdu la moitié de son verger. 2 hectares ramassés. C'est-à-dire qu'on prenait les arbres, t'avais l'impression que c'était des bâtons qu'on avait plantés dans le sol. Il n'y avait plus rien. Le 106 est moins appétant. Et autre chose très important, il a un meilleur réseau de racinaire. Et donc, du coup, il est moins sensible au stress hydrique. Et quand on est en arboriculture, on joue sur le temps long, on parie sur le temps long, en fait. Et donc, il y en a pas mal qui ont en tête le réchauffement climatique. Et qui disent, s'il faut avoir du verger irrigué, il y a toujours la question de l'irrigation qui vient en ligne de compte, du coup. Mais sans verger irrigué, du coup, ils partent plus sur des choix en 106. Alors après, avec plein de techniques, c'est-à-dire qu'il y en a certains, quand, au lieu de les mener en gobelet, le 106 est un peu vigoureux comme porte-greffe. Donc pour pas avoir la contrainte de l'arbre trop épais, ils le mènent comme une haie fruitière, donc en palissé. Mais par contre, ils font monter les arbres à 5 mètres. Et donc là, à ce moment-là, il faut travailler avec des nacelles. Et par contre, ça permet après de mettre des animaux sous les vergers. Et pour ça, il y a un très bon exemple qui est dans Normandie, c'est monsieur Fillâtre, qui depuis des années met des poules, des moutons et des oies sous ses vergers, qu'entretiennent, qui mangent l'herbe, qui apportent un amendement. Mais pour ça, il faut monter un petit peu la première branche et faire monter tous les arbres, et on finit avec des arbres plus haut.
On va prendre la deuxième question. Il y avait monsieur en bleu.
Donc, bonjour, Johan Pécoul, porteur de projet en maraîchage, petits fruits rouges, poules pondeuses et ferme pédagogique à terme. Et je suis actuellement testeur agricole, donc à Saint-Marcelin, pas très loin d'ici, en espace test. Ouais. Donc, j'avais une question. Le statut que tu avais pendant ces 4 ans, c'était cotisant solidaire. D'accord, ok, donc c'était voilà. Et ensuite, je voulais parler un tout petit peu plus des espaces tests. Donc du coup, nous avons une structure en fait qui nous donne le statut d'agriculteur, donc un numéro tiré, ainsi de suite, donc ce qu'on appelle l'espace test. Et ensuite, ils mettent logiquement en place des lieux tests. Donc ça peut être à côté de l'espace test ou ça peut être chez des exploitants, comme tu le disais tout à l'heure, donc qui te fournissent du matériel et tout ça. Mais il faut aussi savoir que ça peut être sur des terrains qui vous appartiennent. Si vous trouvez des terrains en location, vous pouvez demander à l'espace test s'ils peuvent vous accompagner. Et ainsi, vous êtes sur votre propre terrain, vous testez votre propre terrain. Donc si vous l'avez en fermage ou en achat, mais en achat c'est un peu dommage. Et voilà, c'était juste pour porter cette information-là. Voilà.
Très intéressant. Après, c'est vrai que dans le cadre de la production que je fais, moi en arboriculture, il y a une limite de l'espace test dans l'investissement initial qui des fois fait qu'on en retrouve pas mal d'espace test en mararéchage, mais ça serait en fait à côté de Clermont-Ferrand là le premier qui se fait en arboriculture, parce que derrière ça demande un investissement de la collectivité, des associations qui suivent ces projets, assez important quoi.
Ouais. Dans les investissements, il faut savoir qu'on peut mettre aussi une part. L'espace test n'est pas obligé de tout investir. Ouais. Moi, par exemple, il y a du matériel spécifique que j'ai fait un apport personnel. Voilà, c'était juste.
C'est merci, tout. Ouais, très juste. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu modifierais dans ton parcours ?
Je l'ai un petit peu dit au final, c'est le côté bricolage. Je pense que je partirais bien plus vite sur du matériel plus récent et plus performant. L'an dernier, par exemple, j'avais une toute petite récolte. J'ai cassé mon pulvé qui avait 40 ou 50 ans en tout début de saison. Le temps d'en racheter un, etc. J'ai raté tous les traitements fongiques, tavelure, oïdium, etc. J'ai raté ma récolte. Et j'ai raté de quoi m'acheter mon matos, quoi. C'est vraiment ce côté-là, à un moment, être un peu moins frileux sur le côté de sortir un peu d'argent et voilà. Je dis bien un peu dans la limite d'un 10, 20 000 euros, quoi. Mais voilà, moi je suis vraiment parti en empruntant le matos à mes propriétaires au début, très progressif en payant des locations, etc. Mais du trop vieux matos ou moi-même en plus tracteur ou pas très sécure, pas très confort non plus. Voilà, il faut savoir se préserver et bosser efficacement. C'est surtout ce point-là. Je te dis ça aussi parce que, comme je l'ai dit en introduction, je suis encore dans ma démarche, quoi. Enfin, tu vois, il y a encore des choses à changer, justement. Mais pour l'instant, ce qu'il y a derrière, pas de regret, quoi. Super ému. Après, faut avoir une réalité. Je disais, c'est ce qui est les points un petit peu difficiles, hein. Après, il y a énormément de points positifs et la vente directe, pour moi, en était un. Alors, c'est quelque chose qui me plaît. Je n'ai pas de problème à me retrouver devant les gens, à tchatcher, à me répéter. Et du coup, ça, c'est quand tu arrives sur un marché, tu as des fruits en bio. Localement, nous, il y en a très peu. Les gens, ils te font un sourire, ils ont la banane, ils disent « Vas-y, c'est bien ce que tu fais, lâche rien, t'es soutenu. » Enfin, voilà. Moi, très rapidement, je me suis fait un réseau de personnes qui tous les samedis, les mercredis, donc deux fois par semaine, te renvoient un bon coup de motif quand toi, t'as des coups de mou. Et ça, ça fait du bien, quoi. Ça, ça fait vraiment du bien. Après, les métiers, être tout le temps dehors. Les mois d'hiver, au final, tu t'équipes et ça s'est passé, il n'y a pas de souci, quoi. Donc c'est quelque chose qui me parlait, hein. J'ai toujours fait ça, mais il faut vraiment voir quand même qu'il y a plein de points positifs, quoi. C'est très très chouette. Après on teste et il faut voir qu'en arboriculture on a encore plein d'impasses techniques en bio. On a plein de choses, on parle de cerises, là, on en a beaucoup parlé l'an dernier avec la drosophile Suzuki, je sais pas si ça vous parle, mais les mouches qui piquent les cerises, en gros, que ça soit la Suzuki ou même celle qu'il y a toujours eu en France, hein, la mouche de la cerise, on a très peu de choses en bio. En bio, on a deux insecticides et on essaye de pas trop les utiliser, certes, mais il y a des moments où t'es un peu coincé, mais qui ont des dérogations 1 an sur 2 et c'est pas toujours. Les autorisations de mise sur le marché mettent des plombes. On a du soufre, de la bouillie bordelaise, de l'argile blanche, des huiles blanches qui sont de la paraffine. Voilà, enfin, les produits se comptent presque sur les doigts des deux mains, quoi. Il y a pas, enfin, voilà. Et après, moi, j'ai fait dans mes études pas mal de trucs sur la biodynamie, la phytothérapie, tout ça. Alors si j'ai un conseil à donner, ça c'est passionnant. Moi, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Mais de m'y mettre, j'ai fait plein d'études là-dedans et en fait, pour l'instant, c'est dans des cartons un peu parce que déjà à la base, j'arrive même pas à faire les traitements un peu de base de verger, quoi. C'est voilà, faut vraiment apprendre le rythme. Alors certains me disent mais non, c'est pas ça, il faut dès le départ partir tout phytothérapie, tout biodynamie et tout. Pourquoi pas? Après, ça veut dire qu'il faut que tu trouves la clientèle qui te suivra là-dedans, parce que les pommes, par exemple, on parle souvent du cuivre, hein, métaux lourds, effectivement on essaie de limiter au maximum, mais quand tu enlèves complètement le cuivre, faut voir un peu la gueule des fruits que tu vas avoir derrière aussi, hein. Et les répercussions. Moi, j'ai fait ça sur mes pêchers. J'avais des pêchers, ils étaient magnifiques il y a 4 ans. Parti comme je suis parti, dans 2 ans, je les coupe tous, quoi. Voilà, il y a des répercussions, hein. Et faut les assumer après. Faut vraiment assumer ses choix, quoi. Et voilà. Donc moi, je dis, moi, mon parti, en tous les cas, c'est d'y aller progressivement, quoi. C'est de partir sur des bases de cuivre que j'essaye de diminuer. J'ai jamais ôté aussi kilo cuivre métal par hectare et par an qui sont la limite. J'ai tout jamais été au-dessus de 4. J'essaye de diminuer, j'essaye de compenser avec d'autres choses, etc. Mais voilà, alors faut y aller progressivement pour pas se casser la motivation. Et par rapport à ton projet d'espace test, que tu fais un espace test. J'ai vu beaucoup de porteurs de projets aussi qui étaient sur des approches comme ça, multi-production. Et je pense que c'est intéressant parce que ça permet de voir plein de choses et de se tester. Après, dans la réalité, je pense que c'est un peu sport à gérer, quoi. Pardon ?
Alors, pour l'espace test, actuellement, je fais une seule activité. Je teste uniquement le maraîchage et la production de plants pour des particuliers. Mais après, pour le projet final, où nous sommes 2 personnes, voire plus.
Je dis ça parce que j'ai souvent rencontré des porteurs de projets qui voulaient faire du maraîchage, des petits fruits, de l'arboriculture, etc., etc. Alors, à ce moment-là, il y a un travail très simple à faire. C'est prendre un calendrier et mettre les pics de... aller voir les producteurs de chaque production et qui rapidement te disent quand est-ce qu'il y a des pics de travail. Et combien d'heures ça représente, mais grosso modo, et très vite tu te rends compte que c'est compliqué. Alors après, moi, la politique, ça a été de jamais décourager un porteur de projet. Ah, vas-y, mais souvent on se rend compte qu'au fur et à mesure, quand le temps passe, les gens y crèment et souvent on garde 1 ou 2 productions, quoi. Après, des fois, certaines peuvent être secondaires. Les poules dans les vergers, moi, j'aimerais bien faire ça serait secondaire, quoi. C'est petit, quoi. Voilà, c'est. Mais attention, vouloir tout faire, c'est très compliqué des fois. Et je le vois très souvent, moi, en fait, le grand classique étant des maraîchers qui, en même temps, plantent un petit peu d'arbres parce qu'on a toujours envie d'associer le potager au verger. Et en fait, moi, j'intervenais souvent sur des exploitations comme ça pour essayer de relancer les vergers qui avaient été complètement abandonnés, en fait, laissés de côté, parce que dans la course, et ben, au bout d'un moment, en fait, tu privilégies ce qui te fait rentrer des sous en direct, et c'est le maraîchage.
Oui, bonjour. Vous avez parlé d'investissement lourd et long dans le temps. Vous êtes en location. Votre bail, il est de quelle durée? Et comment faites-vous pour équilibrer, pour trouver une cohérence entre l'investissement et la durée du étant en location?
Ouais, c'est une question très, très intéressante, assez centrale en arboriculture, particulièrement en culture pérenne. C'est qu'au moment où tu vas vouloir investir, tu as intérêt à investir sur tes terrains en propriété. Mais déjà, il faut pouvoir les acheter, donc ça rajoute de l'investissement. Et sinon, il faut avoir ce qu'on appelle des bails de carrière. Mais alors, déjà qu'un fermage sur 3 ans, c'est pas facile à faire signer. Des bails de carrière à faire signer, c'est encore plus compliqué, quoi, quand même. Il y a différents. Alors ça, il faut vraiment travailler là-dessus si vous avez des projets. Et moi, en fait, j'en suis revenu un peu là maintenant. C'est travailler sur les différentes, savoir quelles sont les différentes formes de fermage qui existent. Comme ça, le jour où vous arrivez voir un propriétaire foncier, vous êtes en capacité à lui dire, on peut te signer tel contrat, tel temps, et si toi un jour tu as besoin du terrain pour construire, c'est bon, faut le rassurer, quoi. Faut dire, c'est écrit noir sur blanc, le jour où tu arrives et tu me dis, moi, l'an prochain, j'ai besoin du terrain pour construire, tu le récupères. Par contre, il faut être honnête, hein. Quelqu'un, il a signé un fermage, 2 ans après, il a envie d'avoir des chevaux et de récupérer sa prairie pour mettre ses chevaux sur ses terrains, toi, son fermier, tu lui dis non. Il récupérera pas ses terrains. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui veulent plus signer les fermages. Ça a été fait pour protéger les paysans et c'était important. Et voilà, il y a des moments, voilà, il y a un peu certaines limites. Et donc moi, pour revenir à mon cas particulier, en étant en zone périurbaine, mes propriétaires ne voulaient rien me signer au départ. J'ai réussi à signer juste des fermages sur 6 ans. Sur même pas la moitié de mes vergers. Et là, c'est petit à petit aussi, il faut être patient. C'est-à-dire que les gens, tu débarques, ils te connaissent pas. Donc, je me presse pas. Je suis patient, je fais preuve de bonne volonté. Puis surtout, je leur montre que les terres sur lesquelles ils ont travaillé toute leur vie, puis même leur père, hein, d'ailleurs, hein, c'était des terres de famille et tout, j'en fais pas n'importe quoi. Voilà, faut un peu me montrer ce que tu vaux. Faut avoir cette patience-là. Et mon bail et mon fermage, comment je le paye? Je le paye en fruits. Et pour tout dire, ça m'arrange pas trop. Parce que je préférerais moi les vendre. Je les paye en fruits à mes propriétaires qui ont tous les deux 86 ans, qui ont fait ça toute leur vie. Et en fait, eux, c'est juste inconcevable qu'au mois de septembre, ils aient pas de fruits dans leur grange. Et de gens qui passent pour les acheter. C'est leur lien social. C'est ce qu'ils ont fait toute leur vie. Même leur père, mais enfin. Et donc voilà, faut respecter ça aussi. Si t'arrives comme un bourrin et tu dis non, je veux, ben ils diront bah tant pis, ils trouveront quelqu'un d'autre pour les exploiter, quoi. Donc voilà, il faut à un moment savoir être patient un petit peu et voilà. Et ils vendent les fruits, tiens, pour parler un peu concret, ils vendent les fruits à 1,40€ comme ça se vendait dans les pays de pommes le kilo avant. Sauf que moi, c'est des fruits bio que je leur donne, que moi-même, par contre, je vends 2,70€. Donc du coup, rien que la différence de ce que je leur donne me permettrait de payer le fermage, quoi. Voilà. Et il faut... Pour l'instant, je patiente, quoi. Et je comprends aussi, quoi. Je comprends que pour eux, le jour où ils auront plus de fruits à vendre... Ça sera mauvais signe, quoi. Donc voilà. Mais voilà. Sur la question le plus important, c'est de se dire il existe plein de formes de fermage. Il y en a des 3, 6, 9 ans, bail de carrière, etc. Et qu'en allant chercher, il y a des différentes personnes qui pourront vous renseigner à la chambre, je crois qu'ils le font dans les chambres, sur toutes les petites clauses des contrats qui vont rassurer le propriétaire, quoi. Voilà, souvent sur cet aspect constructible. Après, sur l'aspect est-ce que moi je peux récupérer le terrain, ça effectivement, quand ils ont signé un papier, c'est compliqué s'ils sont pas agriculteurs de récupérer le terrain. Mais voilà, après c'est vrai qu'à un moment, par contre, on a envie de sentir qu'on a la main sur les terrains. C'est vrai que quand t'es pas locataire et t'as pas de garantie, c'est d'ailleurs pour ça qu'ont été faits les fermages, hein. C'est pour pas éviter ce qu'on appelle les métayers avant, c'est-à-dire les gens qui louaient la terre, mais du jour au lendemain, salut, bye bye. Et c'est vrai que si tu passes 3 ans à reformer un verger qui avait été abandonné, etc., et que la 4e année, on te dit, ah ben non, en fait, j'ai mon neveu qui tatata, et hop, tu te fais éjecter, ce qui arrive, hein. Et ben, voilà, dur. Donc, selon le projet qu'on, et selon l'investissement qu'on y met, on peut se permettre de faire ce que je fais ou pas, quoi. Mais voilà, moi, là, j'arrive au moment où je commence à vouloir réinvestir, faire des choses, et voilà. Ça va être un peu compliqué.
Tu as pris contact avec Terre de Liens, puisqu'on parlait d'un...
Alors, Terre de Liens, oui, effectivement, j'ai pris contact avec eux la première année que j'étais sur les terrains. Alors, parce que j'étais curieux de savoir comment ça se passait. Mes propriétaires souhaitent pas vendre. Donc déjà, ça a exclu en fait un peu le projet Terre de Liens. Mais bon, je voulais voir un peu ce qu'il en était. À l'époque, ça, ils sont en train un peu de revenir dessus. Mais Terre de Liens voulait acquérir des terres et des bâtiments. Ce qui me semble très cohérent, hein. Moi, à chaque fois que j'entends parler de vergers ou des porteurs projets, je leur dis « Attention, n'oubliez pas les bâtiments !» Parce que ça peut être un sacré quelque chose de très complexe à trouver ensuite. Donc, j'ai rencontré Terre de Liens. Ils sont venus visiter et tout. Voilà, pour eux, ça manquait un petit peu de cohérence foncière. C'était plein de petites parcelles éclatées, etc. Et puis, il n'y avait pas de bâtiments. J'exclus pas d'y revenir. J'ai un collègue qui l'a fait, en fait, très peu de temps après... sur l'autre côté de la ceinture vivrière clermontoise. Moi, je suis côté nord, lui, il l'a fait sur le sud. Et là, il y a eu un super beau projet, mais pourquoi? Et là, je vous invite à le faire, c'est parce qu'il y a une collectivité qui s'est investie, une com-com qui était derrière, qui a bougé un peu politiquement. Alors bon, effectivement, dans cette com-com, il y avait un ancien sénateur, lui-même arboriculteur. Voilà. Mais ce mec-là a créé un verger sur la com-com. Il a acheté les terrains, acheté les arbres, acheté les filets paragraines. Enfin, la Comcom mettait tout ça à disposition. Et du coup, ce projet est devenu un projet Terre de Liens. Et en Auvergne, comme encore une fois, on est très déficitaire en fruits, etc. C'est un projet qui a eu un très bel engouement. Et le financement pour acquérir le foncier a été trouvé assez rapidement, quoi. Avec derrière, par contre, un truc très chouette, c'est qu'il y a des bénévoles et donc il y a une vie associative. Là, l'espace test dont je vous parlais va aussi être, logiquement, ça, c'est en train de se faire, repris par Terre de Liens. Donc, il y a aussi des coups de main qui sont donnés pour aller défricher, etc. L'intérêt des AMAP aussi, c'est vrai qu'en plus, dans les AMAP, on trouve des gens qui nous soutiennent, qui viennent nous aider de temps en temps quand on est dans les coups de bourre. C'est important d'avoir ce côté-là, quoi. Et voilà, c'est un peu d'ailleurs une contrepartie du temps qu'on y passe. AMAP, c'est un truc qui, moi, me parlait beaucoup au début. J'ai fortement levé le pied parce qu'en fait, c'est le soir. C'est des associations, donc c'est bien de participer aux AG. Mais en arbo, c'est une spécificité. En fait, on est un peu en monoculture. Donc, on n'est pas comme un maraîcher qui va avoir une ou deux AMAP. Nous, il faudrait qu'on en ait 5-6 des fois. Et donc, du coup, on se retrouve avec un temps associatif et c'est très, 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 très prenant. Et le temps de travail, tu rentres souvent chez toi à 21h, voilà. C'est prenant, passionnant et prenant.
Merci beaucoup.